Welcome to Gallicast. My name is Lisa Bauman and I play Professor Bernie Summerfield. We finish audios. Enjoy the podcast.
Vous écoutez le Gallicast, le premier podcast français sur Doctor Who.
Bonjour, bonjour et bienvenue pour le Gallicast épisode 112. Et oui, je suis de retour à la présentation parce que Thomas a un empêchement et puis à vrai dire beaucoup de personnes sont en vacances. Et oui, on est au mois de juillet. On n'est pas encore au mois d'août, j'ai failli dire mois d'août. Mais je suis quand même avec Michel.
Bonjour. Salut Michel. Bonjour.
Alors aujourd'hui, Gallicast un peu spécial, donc on va parler bien sûr de la suite de The Key to Time, donc The Android of Tara.
Ouais, à deux.
À deux, mais c'est pas pour ça que nos avis seront moins intéressants. Mais comme on s'est aperçu qu'au final on n'aurait pas eu grand chose à dire sur l'épisode, on va, il y aura un second dossier en fait, second sujet de la semaine. À propos, alors je vous rassure tout de suite, il n'y aura aucun spoiler à propos de la saison 8. On va parler des fuites, mais pas dans le sens pour vous dire ce qui se passe dans le premier épisode et ainsi de suite. On va parler de la fuite des scénarios, de la fuite des épisodes, mais on va surtout essayer d'expliquer ce que c'est qu'un bootleg, ou dans le cadre de Doctor Who, qu'est-ce que c'était que cet épisode au final. Enfin, pourquoi il y avait cet épisode-là en mauvaise qualité, pourquoi la BBC a fait ça. Et on va essayer aussi de pas faire l'avocat du diable par rapport à la personne qui a fait la fuite et qui a mis l'épisode en ligne, mais disons parler un peu de ce qui s'est passé pour d'autres films et pourquoi c'est parfois bien quand même que ce genre de choses existe. Voilà, ça te plaît Michel ?
Oh oui, tout à fait.
C'est parfait, mais tout de suite, on va parler des news.
Les news.
Alors aujourd'hui les news, c'est toi Michel qui commence. T'as deux news.
Alors oui, deux news. Alors la première c'est avec Peter Jackson, le réalisateur du Seigneur des Anneaux, du Hobbit. Apparemment Steven Moffat confirme que le réalisateur des Seigneurs des Anneaux, Peter Jackson, est toujours prévu qu'il réalise un épisode un jour. Alors, c'est pas pour tout de suite, mais
alors apparemment, c'est parce qu'en fait il a pas le temps.
Oui, en plus il demande pas d'argent, déjà on sait qu'il a demandé un Dalek grandeur nature.
Bon, je pense que ouais. C'était un peu une blague ça.
Ouais. Non, c'est à mon avis, oui, c'est vrai, comme c'est un réalisateur assez prisé, il est très demandé, alors il faut qu'il trouve un moment pour réaliser un épisode ou quelque chose comme ça.
J'en parlais avec Marie l'autre jour et je me disais que en fait, je suis content que Peter Jackson réalise un épisode parce que lui, c'est un fan du 7ème Docteur, donc il fera à mon avis un truc super, même avec peu de moyens. Quand on voit ses premiers films, il y arrive. Ce qui m'inquiète un peu plus, c'est que apparemment Moffat voudrait qu'il fasse le final de la saison 9. Enfin, c'est ce qui est suggéré, même si bon, on verra quand il sera disponible et ce qu'il pourra faire. En fait, ce qui m'inquiète, c'est pas tant ce que va faire Peter Jackson, parce que ce sera absolument bon, c'est le scénario. Si c'est un scénario de Moffat, personnellement, j'espère que ça va s'arranger pour la saison 8.
Ça dépend, parce que Peter Jackson, c'est un peu comme les réalisateurs comme Guillermo del Toro, qui sont un peu touche-à-tout, qui aiment bien retoucher les scénarios, s'approprier les histoires. Donc ça se peut que Peter Jackson peut remodifier des éléments, comme il a fait avec Le Seigneur des Anneaux. The Hobbit, c'est lui qui a retravaillé tout le scénario pour que ça colle mieux avec sa précédente trilogie.
Oui, et que ça tienne sur trois films aussi.
Oui, tout à fait. Pour les tirer à maximum. Mais par contre, est-ce que donner un terrorisateur un épisode de 45, ça va lui suffire? J'aurais vu plutôt pour un épisode spécial.
Bah franchement, je pense que ce sera un épisode d'une heure, hein, ou une heure et demie, hein, parce que déjà que le premier épisode de Doctor Who, enfin de la saison 8 sera plus long que d'habitude. C'est pas un spoiler, hein, tout le monde le sait maintenant.
Non, bah, je...
Déjà que... Et puis il va sortir au cinéma, donc de toute manière, c'est pas un spoiler. Mais
Ouais.
bon, je pense que ça devient de plus en plus courant, ce qui est pas plus mal. Enfin, ça dépend après le scénario, bien sûr. Mais je pense que pour l'occasion, il fera un épisode assez long et ils se contenteront pas de 45 minutes. Ce serait gâcher, en fait, le talent de Peter Jackson, quoi.
Bah, connaissant le bonhomme, ça va faire un épisode de 2 heures. Après, à la sortie des DVD Blu-ray, t'auras la version longue comme le 4 heures.
Non, et puis c'est une question de pub, quoi, parce que si Peter Jackson, c'est pas n'importe qui, enfin maintenant c'est un nom dans le milieu du cinéma, maintenant c'est un nom, quoi. Donc s'il lui donne un épisode, ce sera un épisode d'une heure ou d'une heure et demie, pour justifier le fait qu'il vienne, quoi. Ils vont pas lui donner un petit épisode de 45 minutes en plein milieu d'une saison. À la rigueur, quand c'est un scénariste, oui. Parce que bon, bah, scénariste, lui, bah, il est capable de faire un truc bon, que ce soit en 45 minutes ou en une heure. Mais un réalisateur de ce standing, la BBC va forcément capitaliser sur son nom et ça va faire vendre l'épisode encore plus. Donc il faut s'attendre aussi à ce qu'il y ait une sortie cinéma pour l'épisode qu'il réalisera, hein. Ce serait pas étonnant.
Ouais. C'est un peu marrant maintenant cette mode. Avant, le cinéma et la télévision, c'était deux médias vraiment distincts qui se réunissaient jamais. Maintenant, tu vois, il y a ce mélange maintenant avec l'épisode des 50 ans où tu retrouves l'épisode au cinéma. Mais après, c'est pas les seuls, tu vois. Il y a d'autres séries qui ont fait la même chose avec ce que Disney et Marvel avaient fait avec les Avengers. Ils ont fait après une série télé avec Agent of Shield à la télé, tu vois. Maintenant, il y a la
Alors,
télévision et le cinéma se rejoignent. Voilà.
oui, parce qu'en fait, pendant longtemps, c'était une différence de moyens, de budget, de qualité, enfin, qualité visuelle, je dirais. C'était pas la même budget pour les effets spéciaux, donc pour une série de science-fiction, c'était dur parfois de rivaliser avec des films à grand budget. Cela dit, c'était le cas, hein. Regardez Cosmos 1999, les effets spéciaux sont aussi bons que pour Star Wars. Hein. Si même parfois un peu meilleur. Et justement, en fait, quand on dit que la télé, c'est nouveau le fait qu'elle sorte au cinéma, c'est pas vrai. C'est parce
Ah
qu'en
bon?
fait, c'est quelque chose qu'on voit plus, et qu'en fait, qui revient d'une certaine manière, mais durant les années 70, 80, peut-être même les années 60, il y avait quelque chose qui était surtout très fait aux États-Unis, en Italie, pardon. C'était surtout pour le marché italien. C'était à la mode, c'est-à-dire ils prenaient plusieurs épisodes d'une série télé et ils le remontaient pour faire un film. Ça existe pour Amicalement Vôtre, ça existe pour Cosmos 1999, et ça existe pour Les Champions, enfin, pour tout un tas d'autres séries très célèbres. Et d'ailleurs, dans certains cas, ça sera même en DVD, c'est le cas de Cosmos, puisque y a eu 3 ou 4 films, et il y en a 2 qui sont sortis en DVD en France d'ailleurs, qui sont trouvables, c'est Cosmic Princess et Alien Attack. Et en fait, c'est juste des épisodes remontés pour faire croire que c'est quelque chose de nouveau. Et d'ailleurs, ils capitalisaient là-dessus quand ils faisaient la promo, parce que quand tu voyais les affiches, tout ça, t'avais l'impression que c'était les bandes annonces même, t'avais l'impression que c'était de nouveaux épisodes, alors que c'était pas du tout le cas. Pour Amicalement Vôtre, d'ailleurs, si vous avez les coffrets DVD, vous pouvez voir les bandes annonces dans les bonus. Ainsi de suite.
Non, mais ce que je voulais dire, c'est plus avant quand tu voulais, c'était plus dans le cadre d'un reboot. On va reprendre une série, on va le rebooter comme ils ont fait avec Chapeau Melon et Bottes de Thé pour le faire découvrir au public
Oui.
qui ont jamais vu la série au cinéma. Mais maintenant, là, c'est les gens qui vont regarder une série à la télé, ils vont tiens, on va voir la suite au cinéma. La
Ouais.
dernière, pour te dire le. Le seul truc que je me souviens qui avait fait ça, c'était pour X-Files, où ils avaient sorti un film entre 2 saisons,
Ouais,
et
c'est
qui était canonique entre 2 saisons,
ben
en fait. Et ça...
c'était le premier film, ouais. C'est un peu dangereux de faire ça parce que je
Pas,
sais pas si
c'est
c'est
pas...
d'ailleurs le premier.
Forcément, le public qui regarde la télé n'est pas le même public qui va aller au cinéma...
Ben non, c'est pour ça que la BBC, pour l'instant, eux, ce qu'ils font, c'est des épisodes qui sont à la fois diffusés au cinéma et à la télé.
Oui, c'est judicieux.
Ce sont pas vraiment des films.
Ouais.
Parce que dans le cadre d'une série, faire un film, c'est toujours un peu particulier parce que voilà, il faut pas oublier les deux. Parce que le public qui regarde la télé, enfin les séries à la télé, et le public qui va au cinéma, ce n'est pas toujours le même. C'est pour ça que par exemple le téléfilm de 96, c'est l'exemple parfait de ce qu'il faut pas faire en fait. Parce qu'ils introduisent une nouvelle régénération, ils introduisent un vieux docteur, en plus pour le marché américain, donc le 7e docteur, Sylvester McCoy, et ils introduisent la régénération en très peu de temps, quasiment un quart d'heure au début du film. Ils introduisent un nouveau docteur, et résultat, pour le public qui a vu la bande-annonce, qui s'est dit ah, l'affiche est pas mal, et qui allait voir le film sans connaître l'histoire de Doctor Who, eh ben, ils étaient complètement perdus. Et les fans ont pas toujours la possibilité d'aller au cinéma au moment où il sort, même si bon quand c'est une sortie cinéma c'est forcément sur plusieurs jours ou plusieurs semaines. Mais résultat, le film en pâtit parce que ça peut lui donner une mauvaise pub. C'est le problème en fait des films sur les séries et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de projets de films sur des séries qui finalement n'ont jamais été faits. Et quand c'était le cas, bah c'était soit des épisodes remontés, des trucs bidons d'une certaine manière. Soit des reboots comme pour Chapeau Melon et Bottes de Cuir, et on a tous vu ce que ça donne. Traverser les plateformes, c'est toujours un peu particulier. Doctor Who, pour l'instant, la solution qu'ils ont trouvée, en fait, c'est la sortie cinéma, la possibilité de le voir au cinéma, c'est un bonus. Tu le payes, parce que la séance n'est pas gratuite, et c'est un bonus. Là, pour les premiers épisodes de la saison 8, c'est tout simplement une avant-première. Donc tu payes ton avant-première, quoi, comme n'importe quel film. Ça te permet d'avoir un peu d'avance. Cela dit, il y a, à mon avis, 33% des fans qui ont déjà vu l'épisode.
Bon, sinon, pour la seconde news, c'est une parodie à la télévision faite par une émission qui s'appelle Robot Chicken Parody.
Oui, je vais
Parodie de
mettre le
tout.
générique là. Je vais juste mettre le générique parce que j'adore le générique. Voilà, vous avez entendu le générique de cette émission existe en français, qui est diffusée en France d'ailleurs, sur le câble. Et moi j'aime beaucoup, c'est très satirique. C'est Seth Green qui le produit avec un autre dont j'ai oublié le nom.
Alors, explique-nous pour ceux qui n'ont pas vu, et moi donc, parce que j'ai très vite regardé, j'ai découvert la news il n'y a pas longtemps, à vrai dire.
Robot Chicken, en fait, c'est une émission qui c'est rempli, c'est une émission à sketch, mais à sketch qui est faite avec des
Marionnette,
jouets, en
ouais.
fait. Voilà, pas des marionnettes, ce sont des jouets style G.I. Joe, en
Oui,
fait,
on voit
style
bien
Barbie G.I.
on
Joe.
voit bien le Tardis qu'on achète.
Voilà, c'est complètement ça, c'est fait complètement avec des jouets, mais c'est vu d'une manière satirique et assez trash parfois même. C'est violent, c'est pas pour les enfants, pas du tout. C'est pas parce qu'il y a des jouets que c'est pour enfants. Et là, pour le coup, ça ne parodie pas Doctor Who en lui-même, mais ça parodie nous, les fans de Doctor Who. En fait, je pense que ça vise surtout la nouvelle communauté de fans, c'est-à-dire ceux qui regardent Doctor Who comme ils regardent n'importe quelle autre série, et au final, ils sont pas vraiment fans de Doctor Who, ils sont juste fans des séries, quoi. Ils absorbent Doctor Who comme n'importe quelle autre série. Et en fait, ça se moque surtout de ça, puisque je vous laisse regarder la vidéo, elle est sur le site de Gallifrance, vous cherchez la news. D'ici dimanche, elle sera toujours sur la première page de toute manière. Mais pour une fois, ce sont les fans qui sont critiqués et je trouve ça assez marrant. Ne le prenez pas mal, hein, faut avoir de l'humour parfois un peu. Hein.
Quand
Michel, on t'a perdu.
Ah pardon, il disait que surtout quand on voit le fan à quoi il ressemble. Ouais.
Oui, c'est complètement parodique, enfin je veux dire, c'est complètement stéréotypé. Mais je veux dire, voilà, pour une fois, c'est les fans qui pâtissent, c'est pas forcément la série, parce que c'est facile de faire des blagues sur Doctor Who. Au niveau des news, on a eu aussi, il n'y a pas longtemps, Philip Morris, qui a été, en fait, qui a eu le droit, qui a répondu à une session de questions-réponses sur un groupe privé sur Facebook, dont le nom m'échappe. Mais c'est un groupe sur les épisodes manquants en fait. Et il a répondu à un maximum de questions, sachant que la plupart des fans voulaient savoir est-ce que vous avez des épisodes de Doctor Who toujours dans vos archives, mais que la BBC n'a pas encore récupéré. Il n'a confirmé ni nié quoi que ce soit. Donc ça veut tout dire, quoi, d'une certaine manière. Soit il a absolument rien trouvé, soit effectivement il en a, mais il n'a pas le droit de le dire. Ce qui peut arriver, par contrat. Hein. La BBC, de toute façon, ça fait un petit moment qu'ils nient qu'ils ont d'autres épisodes retrouvés qui sont en cours de remasterisation ou quoi que ce soit. Donc a priori, il n'y en a pas pour l'instant. En fait, c'est une interview assez intéressante parce que déjà, elle était sur un groupe privé, donc c'est marrant qu'elle ait fuité quand même. Et surtout, c'est incroyable le nombre de news qui sont sortis en disant des épisodes ont été retrouvés, enfin, il y a tous les titres accrocheurs, tout ce que vous voulez. Alors que finalement, non, tout ce qu'il dit dans son interview, c'est que en fait, ça l'emmerde plutôt qu'il soit toujours mis en avant parce qu'il va dans des pays qui sont dangereux. Et il y a une fois justement où il était dans un pays et tout d'un coup il était sur toutes les chaînes de télé avec la news comme quoi des épisodes de Doctor Who avaient été retrouvés, les fameux 9 épisodes, et résultat, bah, il était devenu une cible vivante parce que c'était un pays où il y avait du terrorisme, hein, donc ce qui fait qu'il aurait pu être kidnappé à n'importe quel moment et puis ils auraient demandé une rançon et ainsi de suite. C'est quelque chose qu'il faut pas oublier, ce sont des pays qui sont très instables pour la plupart, surtout en Afrique. Et il va quand même, ils vont, enfin ils sont à plusieurs quand même, ils vont quand même dans des pays qui sont assez dangereux pour essayer de retrouver, fouiller dans les archives télé. Et apparemment, justement, une fois, il a été, il y a un mortier qui a explosé pas loin de lui et il l'a évité de peu. En fait, il aurait pu être tué, littéralement.
Ça.
Donc, ayez un peu de respect avec Philip Morris quand même.
C'est un aventurier, c'est une sorte de Indiana Jones des épisodes perdus. Voilà.
Bah c'est un peu ça, c'est le seul moyen, hein, parce que
Alors,
ce sont des pays.
tu verras des Philip Morris à la recherche des épisodes perdus. Ça fera un bon titre de film.
Oui, quand tout a été retrouvé, mais oui, globalement, oui, quand même, faut avoir une arme d'aventurier parce que c'est ce qu'il fait. Il risque sa vie concrètement, et ainsi que d'autres employés de sa boîte, ainsi que d'autres personnes à bénévoles. C'est que souvent, ils vont pas que dans des pays dangereux, hein, ils vont en Inde, ainsi de suite, des pays beaucoup plus calmes. Mais une partie de leur boulot se trouve dans des pays dangereux où parfois bah, les archives télé sont détruites pour telle ou telle cause, enfin je veux dire au nom de telle ou telle chose. Donc ce qui fait que bon bah c'est voilà, c'est dur ce métier. Il fait un métier quand même assez dur. Il n'est pas derrière un bureau quoi. Avant de passer à l'épisode, une dernière petite news quand même. En ce moment, Big Finish fête ses 15 ans. Et oui, ça fait 15 ans que Big Finish existe. D'ici dimanche, je pense que ce sera le dernier jour. Puisque ça fait une semaine, je crois, qu'ils fêtent le truc quand même. Donc des promos à la clé. Je pense que si vous êtes au courant, vous avez déjà profité de ces promos-là. Si c'est pas le cas, bah c'est le dernier jour. Sinon, bah après c'est trop tard. Mais de toute façon, il y a des promos assez régulières sur Big Finish. N'ayez pas peur. Voilà, nous allons passer au sujet de la semaine, The Android of Tara.
Oui, tout à fait.
Le sujet de la semaine.
Alors, tu veux que je te
Voilà.
plante ou
Tu le présentes, tu nous résumes un peu la chose parce qu'à vrai dire, ça fait un petit moment que je l'ai pas vu, je m'en rappelle quand même, mais bon, j'ai pas grand-chose à dire dessus.
Alors, The Android Tara, les androïdes de Tara. Qu'est-ce que Tara? C'est une planète qui s'appelle Tara. Oui, c'est pas original comme nom. Alors,
Pas trop.
ouais, alors c'est la quatrième. Oui, c'est bien la quatrième histoire
Ouais.
de la saison de la clé de Key to Time, de la clé du temps. Donc, Romana et le docteur sont toujours à la recherche des saignements de la clé du temps et ils atterrissent sur la planète Tara. Donc, Romana décide de. Il y a le docteur qui décide de pêcher, il se sépare. Romana, elle veut chercher absolument le saignement de la clé du temps. Et là, il se retrouve au milieu d'un conflit. Chacun est capturé par deux camps. Il y a un qui veut utiliser le droïde d'un robot, d'un roi, pardon. Pour faire passer pour le roi, l'autre camp a enlevé le roi. Une histoire assez longue et compliquée. Voilà. Alors,
C'est une histoire de droïde.
en fait, je dis, l'eau est compliquée, mais c'est dur à vous résumer, mais quand vous voyez, c'est pas non plus l'histoire la plus complexe du monde. Hein, voilà.
Alors globalement, qu'est-ce que tu en as pensé?
Alors, je vais pas dire, c'est pas une histoire qui me fait sauter au plafond. Ce n'est pas non plus une mauvaise histoire. ce qui m'a plu et peut-être qui m'a vraiment donné envie d'y rester, qui reste accroché à cette histoire, c'est le fait qu'il y a beaucoup d'humour. Et ça, j'ai bien aimé.
C'est vrai, c'est assez présent, rien que quand le docteur va pêcher au bord du lac.
Ouais, non, non, là, il est super, le docteur. Même, il y a... Tu sais, à un moment, il est coincé dans une cabane, assiégé par des hommes qui lui tirent de... Où ils ont des arbalètes laser, là, dans cet épisode.
Oui.
Lui tirent des arbalètes laser, et donc, tu as le méchant qui lui promet, oui, si vous sortez, je ne vous ferai aucun mal, je ne vous tuerai pas. Donc le docteur, il sort, on commence à lui canarder dessus, il rentre, après il ressort pour justement pour lui dire, menteur, il reprend un risque de se faire tuer, simplement pour lui dire, ouais, tu es un menteur. Tu vois,
c'est très Tom Baker, ça.
Non, il y a aussi une scène où la dernière histoire où avec Anan ils vont dans une sur un bateau.
Oui.
Ils vont dans les catacombes, ils rentrent par les catacombes du château et ils demandent à Anan de pas faire de bruit. Et à un moment, il se croûte dans les escaliers, on entend faire un bruit pas possible. Et là, il revient sur Anan, il fait. Tu peux faire un peu moins de bruit, s'il te plaît, un truc comme ça. Alors que c'est lui qui a fait autant de bruit en tombant. Tu vois.
Ouais, c'est pas mal ça. Alors, c'est une histoire qui m'a pas marqué parce que, effectivement, je me rappelle globalement de l'histoire, mais finalement, pas grand chose. C'est un peu, voilà, c'est un peu le reproche qu'on pourrait faire en fait à toute cette saison, c'est qu'il y a beaucoup d'épisodes, finalement, enfin d'histoires. Qui sont bien, les histoires sont sympathiques, mais elles sont pas mémorables, t'arrives pas forcément à te rappeler de ce qui se passe dans l'histoire. C'est un peu casse-pied.
Non, mais pour t'expliquer, ouais, j'essaye de résumer, mais là c'est vrai que c'est le soir, je suis fatigué. Alors vous résumez. Alors vous avez d'un côté le docteur qui se fait enlever par le roi, qui se fait enlever par les hommes du roi, parce que le roi s'est fait enlever par son ennemi. C'est un peu l'effet de l'amour, hein. Je sais pas si vous voulez que je... Et donc d'un côté, t'as Romana qui se fait enlever par le roi, mais il se trouve qu'elle ressemble à la reine Stella, qui ressemble deux gouttes d'eau à elle, voilà. Donc ils vont demander à Romana de se faire passer pour la reine Stella, pour épouser le roi, qui est en fait un androïde qu'ils ont remplacé par ses ennemis. C'est une histoire compliquée, voilà.
Et Romana, enfin Marita, joue 4 rôles en plus dans l'épisode.
Ouais. C'est une histoire qui est super bien jouée. Pour une fois, là aussi, Marita, Romana, je l'ai trouvé bien sympathique. C'est bizarre, elle saute d'épisode en épisode. Dans The Rebirth of Passion, j'ai trouvé ça pas simple. The Pirate Planet, qui est pour moi, franchement, pour le moment, la meilleure histoire de K2 Time, de la saison. Pour le moment, personnellement. Et y a aussi cette scène un peu que j'ai trouvé ridicule dans la première partie, où t'as une espèce d'homme primate, homme singe. Tu sais, à un moment, elle se fait attaquer par une espèce d'homme singe.
Oui.
Alors le gars qui est dans le costume, en plus le costume c'est pas avantageux parce qu'il est pas très bien fait, et t'as l'acteur qui fait un peu des pâtes à caisse. Alors vous voyez un espèce de go qui font sur vous en gesticulant les bras en l'air comme ça, fait c'est très crédible, tu vois.
D'ailleurs, je trouve ça assez marrant, cette scène, parce que le public, je pense, réagit tous de la même façon. Ils se disent, oh putain, le costume est mauvais, alors que finalement dans l'épisode c'est vraiment un costume.
Ouais, non, c'est pas qu'il est si mauvais. Genre, je crois qu'il y en a eu dans la série qui sont un peu mal faits, mais c'est peut-être l'acteur qui en fait. Ils ont dû prendre, ouais, tu vas attaquer l'actrice, et fait soit menaçant, mais le mec exprimer l'effet d'être menaçant avec un costume où t'exprimes pas grand chose au niveau du visage, il gesticule les bras exagérément. Voilà. Sinon,
je crois que c'est dans cette histoire. En fait, le morceau de la clé du temps, qui est retrouvé d'ailleurs au tout début de l'histoire, au final, c'est le même morceau qui est réutilisé dans une autre histoire, en fait. Je crois que c'est dans celui-là. qui réutilisent le même morceau qui a déjà été trouvé en fait.
C'est marrant, c'est aussi pour la première fois, tu vois la clé du temps, un segment de la clé du temps dès le début de l'histoire.
Oui. Rien qui est caché en statuette, je sais plus exactement.
Et non, je disais aussi, il y a aussi un autre élément qui sauve quand même cette histoire qui le rend intéressant, et c'est plutôt vers la dernière histoire. Là, il faut vraiment attendre, mais je crois que c'est peut-être le clou, vraiment le grand intérêt de l'histoire de The Hand of Tara, c'est le combat à l'escrime. Alors, vous avez un vrai combat d'escrime entre le docteur et le méchant, qui s'appelle, je ne sais plus comment, je vais essayer de retrouver le... Attends, le comte Grandel, voilà, qui était joué par Peter Geoffrey. Alors, on sent qu'ils ont fait venir vraiment quelqu'un qui fait de l'escrime pour donner des petits cours à Tom Baker. Parce que le gars...
Oui, il savait peut-être déjà... Enfin, je veux dire, les acteurs de cette époque-là savaient faire beaucoup de choses.
Ouais. Mais par contre, j'ai remarqué, l'acteur qui fait le comte Grandel, lui, il a été forcément doublé, parce que toutes les scènes d'action où il se bat l'escrime... Il porte un masque, alors que Tom Baker non.
Oui.
Ouais. C'est bizarre parce que dans le combat, un moment pour faire montrer que c'est vraiment Neville Jason qui, non Peter Geoffrey. Neville Jason, c'est celui qui fait le roi. À un moment, il lui enlève le casque et là, tu fais genre c'est moi, oui. Et je me bats plus.
Oui, on oublie. C'est bien, c'est toi. On n'oublie pas. Non, c'est pas la première fois d'ailleurs qu'on voit le docteur se battre, enfin faire de l'escrime, puisque il y a déjà une confrontation, il s'est déjà battu face au maître dans celui avec les cousins des Siluriens, les Sea Devils, il me semble. J'ai un doute. Enfin, c'est quand le maître est en prison, il y a un combat où ils se battent tous les deux à l'épée.
Non mais donc vraiment ce qui rend cet épisode quand même intéressant, cette histoire, c'est qu'il y a beaucoup d'humour et le combat à l'escrime qui est sympa en fait.
Oui, ouais.
Et j'aime bien aussi la petite touche à la fin avec Canine sur sa petite barque. Tu sais que pour se unir que le petit chien à l'eau.
Le pauvre. Au niveau des anecdotes, apparemment, alors je ne l'ai pas lu, donc je ne pourrais pas vous dire exactement ce que c'est, je veux dire à quel point il s'en inspire, mais le scénario s'inspire du roman The Prisoner of Zenda, donc je ne connais pas le titre français non plus, et apparemment il en fait beaucoup, c'est assez proche quoi. Dans les titres de production, il y a eu The Android of Zenda, The Android of Zend, ils ont redit le A, c'était peut-être une faute d'orthographe, The Prisoner of Zend, et aussi The Seed of Time. Ça aurait fait beaucoup de seed. Maritam a fait son propre costume cette fois-ci, donc si vous le détestez, c'est de sa faute. Le costume violet, c'est elle qui l'a fait, parce que apparemment le costume d'origine était vraiment pas pratique.
Oui, ce costume mauve. Ouh là. C'est vrai qu'elle aurait du succès dans les reines du shopping, ça va marcher.
Et sinon, à part ça, moi personnellement, j'ai rien d'autre à dire. Il y en a qui vont respecter, je pense que Thomas, quand ils vont entendre ça, c'est nul.
Attends, j'ai une autre anecdote.
Pas beaucoup d'épisodes.
Attends, il y a une autre anecdote. Apparemment, l'une des chaises de la chambre de Lania était aussi autour de la table du terrible Mandry Solon dans l'histoire The Brain of Morbius. Alors, t'as une
chaise. Bah, il réutilise souvent. Ouais,
une chaise, quoi. T'es ton
retour. Oui, c'est bien ça. Non, mais il réutilise souvent les objets. D'ailleurs, tiens, au London. Non, attends, c'était. Bah, c'était là où Manon est allé, c'était le London Film and Comic Con. Mark Gatiss et Moffat étaient lors de leur... je crois que c'était Moffat. En tout cas, lors d'un des trucs, des panels avec les acteurs et scénaristes et ainsi de suite. Les chaises qu'ils avaient, c'était des chaises qui provenaient des archives de la BBC. En tout cas, c'était peut-être des reproductions. Mais c'était des chaises qui étaient déjà apparues dans la série classique.
Mais quand même, j'imagine la personne qui va faire regarde, c'est la même chaise que dans The Brain of Morbius.
Tu sais, quand on est passionné, on
remarque tous les détails.
Ouais, bah, enfin, ça vient des DVD, généralement, tu sais, ces anecdotes. Hein. Parce que, justement, tiens, il y a quelque chose qu'on oublie souvent, c'est que sur les DVD, il y a les production notes. En fait, ce sont des sous-titres. Il n'y a pas d'audio supplémentaire. Hein. Vous avez l'audio de l'épisode normal, mais vous avez des sous-titres qui contiennent énormément, énormément d'anecdotes sur chaque épisode. C'est vraiment bourré d'anecdotes. Vous avez à chaque fois presque les tournages, les dates des tournages en extérieur. Les petits détails, pas mal. D'ailleurs, y en a un que je conseille, mais qui a été fait par un fan, c'est sur Dimension in Time et qui est hurlé de rire. C'est vraiment excellent.
Non, c'est aussi.
Mais c'est.
On disait, c'est particulier aussi, Android of Tara, c'est aussi la seule histoire. À part ce petit monstre singe au début, c'est la seule histoire sans vraiment de monstre en fait.
Oui, c'est vraiment très humain pour une fois.
Et c'est vrai que on voit pas mal d'Android au début, et s'éclipse un peu, mais c'est vrai que ça joue beaucoup sur le fait. Du faux semblant qui peut être vraiment le roi, telle personne, si c'est vraiment Romana que t'as en face et pas un androïde. Ça joue beaucoup sur ce. C'est pour ça que ça rend difficile à résumer cette histoire quand même.
Oui. Alors, il y a eu une suite à l'histoire qui s'appelle The Trial of Tara qui est sortie dans un des décalogues de Virgin. Donc, ces bouquins, je pense qu'ils sont durs à trouver maintenant.
Oui, c'est pas. C'est une petite.
Dusty Sralam
Ah
leur
oui,
dit.
c'est une petite histoire. Je crois que c'est avec le septième docteur et Bernie Summerfield. Voilà.
Ouais.
C'est une petite nouvelle, on va dire. C'est vraiment une histoire courte.
Oui, et il y a le Candyman dedans.
Ah ouais, carrément.
Et qui fait le lien en plus avec une histoire, c'est The Happiness Patrol, je crois, avec le Candyman, c'est-à-dire l'homme bonbon là que vous voyez sur des photos généralement. Enfin, le monstre en forme de bonbon, qui parodie d'ailleurs un personnage en forme de bonbon qui existe réellement. T'as quelque chose à ajouter sur l'épisode?
Non, je pense qu'on a tout fait le tour.
Une petite
Alors, je
note?
vais dire un petit 7 sur 20. 7 sur 10, pardon. Pourquoi je mets sur
Oui,
20?
sur 20, ça fait
Non, un petit
ça va
7
ou
sur 20, parce que c'est un épisode, malgré que c'est. Il reste dans une moyenne, mais vraiment dans une moyenne. Il y a beaucoup de l'humour, le combat à l'escrime qui donne vraiment de l'intérêt à cette histoire.
Moi, personnellement, je lui donnerais un 5 sur 10 parce qu'il m'a pas marqué non plus. Encore une fois, c'est pas vraiment la mauvaise histoire parce que je me rappelle que je l'avais bien aimé quand je l'avais vu. Contrairement à d'autres histoires de la précédente. Non, je l'avais bien aimé. J'avais surtout aimé la première partie. Je l'avais trouvé pas mal. Mais globalement, oui, j'avais bien aimé l'histoire. Mais je m'aperçois qu'en fait, elle m'a pas marqué en fait au final. Et donc c'est pour ça que je lui donne une note la moyenne quoi, parce que bon, quand une histoire
Mais
ça vous marque pas plus que ça.
je crois que c'est une histoire qui est bizarrement. Bon, ils arrivent dans une planète sur Tara, c'est très moyenâgeux, tu sais, c'est très. Ça pourrait être une histoire historique, mais non, ça se passe
Oui,
sur une
c'est
autre
vrai, sur une
planète.
autre
Ils
planète.
remplacent les arbalètes par des arbalètes qui leur envoient des flèches laser et des rapières laser, quoi, tu sais, quand ils faisaient des trucs. Et
Oui.
ça aurait pu être une histoire historique, mais non, ils en ont fait une histoire SF. Et je crois il y a aussi le fait de ne pas mettre de monstres, de créatures, d'images marquantes. Parce que le monstre
Oui.
dans les épisodes de Doctor Who, c'est vraiment ce qui marque, qui donne. Avant, il y avait The Stone of Song, là, c'était ça, The Blood.
Oui.
Et il y avait les pierres où c'est vraiment. Ça a marqué. Là, l'absence de monstre fait que peut-être l'histoire, c'est ce qui rend que l'histoire est moins marquante que les autres. C'est l'absence peut-être de monstre, d'identité visuelle qui est propre à elle, en fait. Ouais.
Oui, c'est probablement ça,
Ce
oui.
qui n'engage pas, ce qui fait pas que c'est pas une mauvaise histoire, au contraire, mais
Oui.
j'avais l'impression qu'elle avait pas trop d'identité, sans forcément, ce n'est pas du tout que c'est une bonne histoire. Ouais.
Oui. Et ben voilà, je pense qu'on a tout dit.
Oui, tout à fait.
Si vous avez quelque chose, si vous qui écoutez avez quelque chose à dire sur cet épisode-là, désolé, on n'a pas posté. J'ai complètement oublié de poster sur le Facebook pour que vous donniez votre avis. Et ben donnez-le sur le forum, tiens. N'hésitez pas parce que chaque épisode du Gaycast a son propre sujet sur le forum. Donc n'hésitez pas à donner votre avis là ou même directement sur Facebook. Hein, aussi Facebook maintenant, c'est sûr que ça marche mieux qu'un forum. Donc n'hésitez pas à le donner. Hein, là, c'est ouvert à la.
Je voulais rajouter quelque chose, mais pas rapport à l'histoire, mais en plus je l'aurais pu mettre pendant les news. Oubliez pas que il y a plusieurs événements organisés par Gallifrance un peu partout en France.
Ah oui, bah on le dira à la fin. Ouais. De toute façon, ils sont passés maintenant, au moment où l'épisode sera diffusé. Donc, mais oui, j'en parlerai à la fin. Où on va en parler tout de suite, parce qu'on va parler, on va passer au second sujet. Voilà, donc comme le disait Michel, le Galley Picnic de Bruxelles s'est déroulé hier, j'y étais.
Ouais.
Normalement, j'ai filmé avec ma GoPro ce qui s'est passé durant la journée. Je ne sais pas quel est le résultat forcément, parce que j'enregistre ce Gaycast avant. Donc il y aura peut-être une vidéo, c'est pas certain, ça dépendra en fait de ce que j'en sors. Mais en tout cas, il y aura des photos. Et puis le dimanche, c'est un Galli jeu de rôle à Lyon, il me semble, c'est ça?
Ah, non, Michel, je crois que c'est le pique-nique de Lyon. Ouais, c'est un Galli.
Oui, ou c'est
alors,
un pique-nique.
Alors c'est un pique-nique à Lyon, voilà. Ils sont.
C'est un Galli pique-nique parce qu'il y aura une section. Parce qu'il y aura aussi un événement prochain. J'en ai peut-être trop dit, mais il y aura un événement où on fera du jeu de rôle. Donc c'est pour ça. Et ce sera à Lyon, il me semble, avec une autre association.
Je peux vous donner d'autres dates et d'autres événements. Alors, si vous êtes à Montpellier, il y aura aussi un Galli pique-nique le 19 août.
Oui.
Pour exact, je ne sais pas. Vous allez sur notre page événements ou même sur le forum. Dans événements, vous allez trouver tous les renseignements, à mon avis. Le 24 août, si vous êtes sur Paris ou la région parisienne, il y aura un City of Dead Tour. Alors, si vous voulez remarcher sur les traces de Tom Baker et de Lala Ward, du 4e Docteur et de Romana, 2e Régénération, et visiter la ville de Paris à travers leur regard et tout ça, donc n'hésitez pas à venir nous retrouver le 24 août sur Paris. Voilà, après le jeu de rôle c'est le 20 septembre en fait à Lyon, donc
oui,
il y a encore temps. Voilà.
Et il va y avoir une murder party aussi,
c'est tous les événements qui sont prévus pour le moment, ce qui est pas mal. Ça vous fait des bonnes chances où viennent de bien organiser jusqu'à pour le mois d'août.
Sachant que pourquoi on n'en fait pas plus, tout simplement parce que là il y a des gens qui sont en vacances du staff, puis on en fait beaucoup et c'est pas la peine non plus d'en faire 20 dans un mois. Vaut mieux en faire des moins et qui soient très bien plutôt que d'en faire énormément et qui soient tous pas terribles. Mais on essaie quand même d'en faire un maximum en dehors de Paris. Il faut juste qu'on ait quelqu'un qui soit disponible à ce moment-là. Alors, le deuxième sujet, c'est un sujet qui fâche. C'est pour ça que j'ai placé en dernier. Si on va pas, je vous rassure, on va pas parler de ce qui va se passer dans le premier épisode de la saison 8. On va pas livrer de spoilers sur les scripts. On va juste parler de l'affaire. Donc, n'allez pas me dire que Gallifrance se met à dévoiler des infos, tous ces trucs-là. Non, c'est pas notre but. Hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait très peu de news dessus, parce qu'au final, déjà tout le monde avait relayé l'info. Hein. Si on le disait 3 jours après, ça avait pas d'intérêt. D'ailleurs, on a fait un article, un Space Oddity sur les workprints. Donc quand même, on a quand même fait des choses dessus, mais c'est vrai qu'on n'a pas non plus trop relayé l'info. Et inutile de nous contacter pour savoir si on peut vous envoyer le script ou l'épisode, on ne le fera pas. C'est la moitié du staff là, l'autre moitié l'a pas et ne veut pas savoir. Chacun est libre. Moi je vais pas critiquer parce que je les ai, donc ça me regarde de toute manière. Et je ne dirai pas de spoiler de toute manière. Mais on va peut-être essayer de résumer un peu ce qui s'est passé. Alors est-ce que tu sais toi Michel ce qui s'est passé?
Alors non, pas vraiment.
Bon, bah, je vais te le dire, ça va être moi qui vais encore parler pendant une demi-heure.
Bon, donc, alors, apparemment, il y a eu 5 scénarios, les 5 premiers scénarios de la saison 8 qui ont fuité. Et donc, il y a plein de gens qui ont pu les récupérer, les lire en avance. Voilà. Et donc, le premier épisode, lui. Apparemment intégralement, oui. Parce qu'il est sorti dans une version noir et blanc avec les effets spéciaux pas terminés.
Mais je vais revenir un peu à ce qui s'est passé sur là-dessus. Donc il y a à peu près 2 semaines, je crois. Ça fait 2 semaines maintenant. Enfin, je sais plus. J'essaie de retrouver une news pour avoir la date. Tardy va publier ça le 18 juillet. Donc ça devait faire un jour ou deux. Peut-être même le jour même. Je voulais chercher pour avoir la date exacte, mais globalement, ce qui s'est passé en fait, c'est que la BBC prépare, bien sûr, plus d'un mois à l'avance, les doublages quand il s'agit d'autres pays. Parce que la BBC, en fait, tout un tas de pays, sauf en France, bien sûr, vont diffuser l'épisode en même temps. Ça va être un simulcast, comme c'est fait souvent. Sauf que la BBC, pour une fois, il n'y a pas longtemps, a ouvert des bureaux. Pour l'Amérique du Sud, je ne sais plus exactement si c'est le Mexique, enfin, en tout cas, ils ont ouvert des bureaux à Miami, c'est des bureaux tout récents. Et ce qui s'est passé, c'est que les scripts qui ont été envoyés sont des scripts, ce qu'on appelle des shooting scripts, pas des shooting scripts, mais il y a un terme, mais enfin, globalement. Ce que vous voyez dans le script, c'est ce qui est à l'image, c'est ce qui est définitif, c'est ce qui a été tourné. Il n'y a pas de scène supprimée dedans, c'est pour ça qu'ils ne sont pas assez intéressants au final. Parce qu'il n'y a pas de scène supprimée, il n'y a rien qui diffère de l'épisode, tout ce que ça va faire, c'est vous spoiler. Et donc ces scripts-là étaient envoyés à ces bureaux pour en fait réaliser l'adaptation pour, je crois que c'était de l'espagnol. Je ne saurais plus exactement quel nom. Donc en fait c'était pour la traduction et donc avec sur ce serveur il y avait donc les 5 scripts, les 5 premiers épisodes, mais également les 6 premiers épisodes tournés et montés, 6, il y avait le 6e épisode étonnamment, envoyé en fait tout simplement pour réaliser le doublage, parce que quand on réalise un doublage, les acteurs ils sont pas juste devant un micro avec le texte sous leur nez, non, ils ont besoin pour réaliser le doublage d'avoir l'image en face. Et donc ces vidéos-là, ce sont bien les épisodes que, théoriquement, à moins qu'ils modifient quelque chose, mais ça m'étonnerait parce que sinon ils n'enverraient pas ça pour le doublage, le montage, c'est le montage définitif. Donc si vous l'avez vu, il y a de fortes chances qu'il y ait quasiment pas de différence avec ce que vous verrez le 23. Je ne dirai rien, je vous rassure. Mais ce qui n'était pas fini dans ces vidéos là, en fait, c'est tout ce qui concerne les effets spéciaux, la musique. Pourquoi ? Parce que pour le doublage, on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin des effets spéciaux, on n'a pas besoin, on a juste besoin des acteurs qui récitent leurs lignes et aussi du montage définitif pour qu'il n'y ait pas de retouches à faire à la dernière minute. Parce que si le montage change, forcément, il faut que toutes les adaptations changent en même temps. S'il y a une scène qui est rajoutée, bah voilà, il faut le faire. Et ça se fait pas. C'est pour éviter de perdre du temps. Parce que le doublage, c'est quand même long, hein. Il faut quand même, enfin, ça dépend après des studios et ainsi de suite, mais ça peut être long, hein. Ça dépend aussi du temps qui est alloué, hein, bien sûr. Je sais que France 4, enfin pour le doublage français, c'est des délais très courts. Et je pense que parfois ils doivent même faire le doublage d'un épisode dans une journée. C'est quelque chose qui est assez courant pour la télé. Donc ce qui fait que c'est pour. Alors pourquoi est-ce que c'est en noir et blanc avec des copyrights partout? C'est justement pour éviter que l'épisode fuite et que l'épisode qui fuite soit, disons, l'épisode terminé. Donc c'est quelque chose qui est volontaire, c'est pas quelque chose de nouveau, puisque Cannes, maintenant, quand vous avez la chance d'avoir une copie pour une critique et que vous faites partie d'un jury, c'est ce que vous avez, hein. Vous n'avez pas le film définitif, vous avez un film. Quand ils réalisent les doublages de Pixar, c'est pareil, hein. le Pixar, en fait, enfin, le film qui est envoyé au studio pour le doublage, c'est pas le rendu définitif, hein. c'est presque les animatiques, c'est presque du niveau parfois du storyboard, hein. Ça arrive parfois. Il suffit que des effets spéciaux soient pas terminés mais qu'il y ait des dialogues dedans, on met voilà. C'est pour éviter en fait le piratage. c'est juste pour vous emmerder dans la qualité pour ceux qui auraient le culot de pirater ça. Est-ce que toi tu l'as vu?
Non, pas du tout.
Enfin, est-ce que toi, t'as été tenté de télécharger les scripts? Parce que si on cherche bien sur Google, on les trouve quand même bien. Je pense que la BBC a contacté Google pour qu'ils retirent les mots-clés, parce qu'ils sont quand même durs à trouver.
Alors non, j'étais pas tenté. Pourtant, il y avait Thomas qui était chez moi. Il l'a téléchargé dans mon ordinateur. Je dois l'avoir encore dans mon ordinateur. Et je ne l'ai pas regardé. Et tu sais pourquoi? Parce que le fait que ça soit en 3D, les effets spéciaux pas finis, qu'il n'y ait pas encore toutes les musiques, quand je veux voir moi un film, je veux le voir dans la meilleure qualité possible qu'il y ait. C'est-à-dire, je veux voir une œuvre terminée, achevée. C'est comme si tu allais voir un tableau, le croquis d'un tableau inachevé en fait. Et moi, je veux être dans les meilleures
Bah ça,
conditions.
ça arrive quand quand l'artiste meurt avant, mais oui, je comprends ce que tu veux dire, quoi. Enfin, cela dit, c'est le problème en fait de la télévision, c'est que c'est un produit culturel, et c'est surtout un produit commercial. Le fait que la BBC soit emmerdée, disons, que c'est fuité, c'est pas tant, même si c'est ce qui est mis en avant, c'est pas tant. La véritable raison, c'est pas simplement que la BBC trouve dommage que enfin que les téléspectateurs aient des spoilers et ainsi de suite. Non, en fait, ce qui les emmerde, c'est que potentiellement, les gens qui ont déjà vu l'épisode ne le regarderont pas le 23 novembre. Enfin, le 23 août, pardon. Ce qui est faux, parce que même si moi, par exemple, je l'ai vu, oui, je l'avoue, je l'ai vu, mais je dirais rien. Je vais quand même regarder le 23 août. Hein, c'est pas ça qui va m'empêcher. Mais en fait, voilà, la BBC, ce qui l'emmerde réellement, c'est justement que l'épisode ait été diffusé avant la date prévue. Pourquoi? Enfin. Pour la BBC, on ne peut pas dire côté commercial parce qu'il n'y a pas de publicité pendant la diffusion, il n'y a même pas de publicité sur BBC One. Mais c'est sur les autres chaînes. Sur les autres chaînes où c'est diffusé, il peut y avoir de la publicité. Dans le cas présent, je ne sais pas exactement si c'est le cas. À mon avis, non. Parce que ça doit être principalement diffusé sur des chaînes proches de la BBC où il n'y a pas de pub. Mais globalement, en fait, ça pose un problème côté promo. Et ils ont peur qu'il y ait moins de téléspectateurs qui regardent l'épisode finalement quand il sera diffusé à la télé. Et c'est pas vraiment le côté. Que le scénariste dise que oui, ça vous gâche un peu le plaisir, tous ces trucs-là. Oui, à la rigueur, oui, parce que lui, il a envie qu'on regarde l'histoire telle qu'il la voit et telle qu'elle est finie. Et pas forcément telle que. Enfin, dans une version tronquée, niveau qualité. Mais la BBC, réellement, c'est plus pour une raison commerciale, parce qu'ils ont peur de perdre de l'audience. Après, pourquoi est-ce que c'est différent d'une œuvre d'art? Tu me disais justement que c'est comme regarder le croquis d'un artiste. Je suis pas tout à fait d'accord, parce que le croquis d'un
Mais c'est.
artiste, quand tu le regardes. Non,
Non,
mais
c'est
je veux
une
dire,
œuvre
par exemple,
achevée, c'est pas ce que l'artiste il aurait voulu. Tu vois, il a pas. Tu
Oui.
sais, c'est pas quelque chose de terminé.
Oui, bien sûr. Alors, mais admettons que tu voyes la Joconde. Tu vois la Joconde terminée, tous ces trucs-là, mais qu'on ressort des croquis de Léonard de Vinci de la Joconde. Il me semble pas qu'il en existe, mais il existe un second tableau de la Joconde qui est un peu une copie et on se demande un peu. Et c'est pas terminé, c'est pas l'œuvre définitive. Pourtant, le croquis reste intéressant parce que ça permet de voir les étapes que l'artiste a eues avant d'obtenir le
Mais
tableau
tu
final.
vois, c'est comme si tu voyais la Vénus de Milo sans les bras. Elle a pas de bras.
C'est le cas. pour ceux qui ne comprennent pas, je suis désolé pour vous, mais la Vénus de Milo n'a plus de bras depuis très longtemps, et le problème c'est qu'on ne peut même pas reconstituer les bras parce qu'on ne sait pas dans quelle position étaient les bras. On n'a pas de croquis ou quoi que ce soit de la Vénus de Milo, donc on ne pourra jamais savoir en fait comment étaient les bras de la Vénus de Milo, enfin en tout cas de cette statue. C'est un peu idiot, mais on peut faire une bonne blague avec ça. Oui, enfin c'est un peu. Moi personnellement, j'ai pas vu l'épisode. Enfin, la volonté que j'ai eue à regarder l'épisode, c'était pas tant. Enfin, d'une partie si, parce que je voulais voir ce que donnait Capaldi à l'image. J'ai été rassuré, mais je vous dirai pas comment. Mais le truc c'est que moi je ne regardais pas franchement l'épisode pour être spoilé et pour avoir le truc avant tout le monde comme les trois quarts des gens. Moi c'était plus un œil technique. J'avais envie de voir en fait comment travaillait la BBC Et parce que c'est ce qu'on appelle une copie de travail. C'est en fait, comme je l'explique dans l'article sur les workprints, ce sont des copies qui ne sont destinées qu'aux producteurs ou à des techniciens ou réalisateurs et ainsi de suite, pour voir l'avancement du montage principalement. Par exemple, est-ce que quand le monteur s'occupe du montage, il n'a pas toujours le réalisateur derrière lui. Il a les directives du réalisateur, il a le scénario, il a les scènes coupées, et à partir de ça, il a pas tout à fait carte blanche, mais grosso modo, il doit donner du rythme à quelque chose qu'il n'en a pas à la base, puisque les rushs comme ça n'a pas de rythme. Et lui, il doit donner du rythme, et surtout, il doit s'en tenir au regard du réalisateur. C'est-à-dire qu'il doit quand même retranscrire ce que le réalisateur voulait donner dans son rythme. Si par exemple, dans une scène d'action, il voulait un montage à Jason Bourne, il faut que le monteur soit capable de faire un montage qui soit à la fois très dynamique, mais aussi qui soit lisible. Ce qui n'est pas toujours le cas. Beaucoup l'ont copié et peu y arrivent finalement. Et souvent ça marche pas d'ailleurs. Il n'y a qu'à voir avec James Bond. Et donc ces copies de travail sont plus une sauvegarde. Enfin, c'est une épreuve qui est envoyée au réalisateur ou au studio parfois pour montrer où en est le projet, où en est le montage et si la direction est bonne. Dans le cas de Doctor Who, ils ont donné donc cette copie de travail en fait pour qui est suffisamment avancée donc au niveau du montage pour permettre le doublage d'être fait. Mais c'est pas une version définitive puisque dans cette version-là, les effets spéciaux ne sont pas terminés volontairement bien sûr. Mais cela dit, au moment où les épisodes sont envoyés, en fait, la BBC a déjà fini les effets spéciaux. C'est juste qu'ils n'ont pas donné une version où les effets spéciaux sont terminés pour une question de piratage. Parce qu'ils en sont quand même légèrement conscients. Mais ils ne sont pas capables de sécuriser leur serveur correctement. Mais en fait, ces versions-là permettent de voir comment ça fonctionne le montage. Enfin, pas forcément, mais quelles sont les étapes par lesquelles passe le montage d'un film. Et quelles sont toutes les étapes qui permettent d'avoir un résultat final qui soit visuellement bon, mauvais, enfin après ça dépend de l'avis, mais je veux dire quelque chose de fini. Et l'audiovisuel, c'est presque le seul médium qui permet d'avoir ça. Enfin, non, parce que bien sûr, il y a les notes d'un écrivain quand il écrit son roman, parfois il écrit plusieurs fois le même chapitre. Douglas Adams, par exemple, il écrivait parfois plusieurs versions d'un même chapitre ou même d'un même bouquin. C'est le cas du Saumon du Doute, justement, qui existe en deux versions, mais qui n'a été commercialisé que dans une seule. Mais c'est à la fois un récit qui a été écrit pour H2G2 et pour Dirk Gently. Et la version commercialisée, c'était la version Dirk Gently parce que c'était considéré comme étant la plus aboutie au moment où il est décédé. Et donc, c'est intéressant sur le point de vue technique. Moi, personnellement, c'est ce qui m'intéressait. C'est pour ça que j'ai regardé. C'est pas tant pour me spoiler. Parce qu'à vrai dire, si je l'ai téléchargé maintenant, c'est parce que je savais très bien qu'il aurait été, après le 23 août, il aurait été extrêmement dur à trouver. Je cherche par exemple l'épisode qui a fuité de Rose, enfin la version qui a fuité, qui est totalement introuvable maintenant. Alors que si j'en avais eu vent en 2005. Ça veut dire que j'aurais été fan de Doctor Who quand même avant. J'aurais essayé de la voir tout de même, justement pour une question d'archive, parce que c'est toujours intéressant, mais surtout pour voir comment la BBC fonctionnait à cette époque-là. Parce que je compte travailler dans l'audiovisuel quand même. Et voilà pourquoi ça m'a intéressé de voir cette copie de travail. J'ai lu partiellement le script parce que je voulais voir en fait comment était écrit un script écrit par Moffat à la BBC et qui était utilisé comme étant un élément pour le tournage. Et pour le montage, et enfin, pour le produit fini. Je voulais voir comment la BBC écrivait ses scripts en fait. Je voulais voir aussi comment Moffat écrivait ses scripts. Mais c'est difficile de juger parce que finalement c'est un script qui est finalement qui est écrit après que l'épisode a été tourné et monté parce qu'il n'y a pas de scène coupée, il n'y a pas de différence réelle entre ce qui a été filmé et ce qui est écrit. Et c'est pour ça qu'il m'intéresse moins et que j'ai pas lu en entier au final.
D'accord.
T'as dit,
non,
enfin, t'as quelque chose à dire par rapport à ça?
non,
Parce que j'ai pas envie de pas
non.
encore passer pour celui qui parle pendant une demi-heure d'un sujet et puis personne, tout le monde est d'accord, tout ça. Non, je veux dire, si... par exemple, est-ce que t'as déjà vu des workprints
non,
de films,
jamais
toi?
en fait. Ah si,
T'as
ah
joué, pourtant il y
si,
en a d'autres.
oui, genre tu penses télécharger bien le film, mais en fait tu vois c'est pas, ah oui c'est pas une version finie. Il y a eu un Wolverine qui a fui, le Wolverine Origin qui a fuité, qui était comme ça avec les, vous
Ouais.
voyez Hugh Jackman se balader dans des fonds verts, c'était magnifique.
Voilà, les effets spéciaux étaient pas terminés. D'ailleurs, ça a fait beaucoup de mal au film quand il est sorti parce qu'il y a eu énormément de critiques là-dessus. Résultat, le film, bon, je l'ai pas vu personnellement, donc je vais pas dire s'il est bon ou mauvais. Mais à mon avis, il est pas plus mauvais qu'un autre film. Mais cela dit, c'est ce qui a nui à son succès au cinéma parce qu'il y a énormément de gens qui se sont basés sur les critiques. Sur cette version-là non terminée, qui n'ont pas été voir le film alors qu'ils avaient prévu. Et ça a fait du mal au film et ça a entaché son succès. À tort ou à raison, après. Pardon. Mais cela dit, il y a des workprints assez célèbres, notamment Blade Runner. Il y a 4 ou 5 versions du film, qui sont d'ailleurs sorties en DVD dans un coffret. J'ai le hoquet, désolé.
Voilà.
Excusez-moi.
Voilà. Non, à part ça, non, je peux pas. J'ai rien d'autre de plus à ajouter. Moi, après, personnellement, c'est pas quelque chose qui m'intéresse parce que c'est comme si j'allais voir un film, bah, justement, sans que les effets spéciaux. C'est comme si j'allais voir Star Wars avec l'étoile noire pas terminée. C'était un peu.
Mais
Voilà.
genre plan
C'est
manquant,
comme si j'allais voir
explosion.
Dark Vador sans son costume, tu sais, c'est un peu dommage, tu sais, donc moi j'attends de le voir comme les autres, le réalisateur, le scénariste l'ont voulu le montrer au spectateur comme il veut, voilà, en bonne condition sur mon canapé devant
Après,
ma télé, voilà. Allez.
y a un autre débat qui arrive par rapport à ça. Déjà, je pense qu'il y a une certaine forme d'hypocrisie. Ouais, je balance. Hein. Je suis. Ouais. Il y a une certaine forme d'hypocrisie de la part d'une bonne partie. Enfin, d'une partie des téléspectateurs. Je dirais pas tous. Parce qu'il y en a beaucoup, effectivement, c'est très, ils sont honnêtes et ils veulent pas en entendre parler. Ils trouvent ça dégueulasse parce qu'ils veulent pas être spoilés. Et eux, comme toi, ils veulent voir le produit fini et pas une version non finalisée qui ne retranscrit pas ce que voulait le réalisateur. Mais d'une autre part, pour moi, c'est un peu l'hypocrisie parce que depuis le DVD, même avant quand même, on a les bonus. Ce sont des making-of. Et qu'est-ce qu'on voit dans les making-of en général, à part des interviews d'acteurs, c'est aussi des scènes non terminées avec les effets spéciaux non terminés ou alors des
Mais
répétitions d'acteurs. C'est
ça, tu
exactement la
le
même
vois
chose.
après, c'est pour te montrer comment le film,
Oui,
le
tu le vois
film,
après, mais.
ce que tu as vu a été fait, réalisé, mais c'est pas.
Oui, bien sûr, mais pour moi, je vois pas vraiment ce que ça change, à part ça te gâche la surprise. En fait, pour moi, le seul truc que ça change, c'est effectivement ça te gâche la surprise. Et encore, pas totalement, parce que parfois, il y a des trucs qui sont rajoutés dans les effets spéciaux, et là, t'as la surprise. Mais je veux dire, pour moi, la seule différence, c'est que ça gâche la surprise. Parce que tu vois le making-of avant ou après, le produit fini reste supérieur, forcément. Si t'es pas capable d'apprécier le supérieur et que tu juges uniquement la pièce, l'œuvre sur sa version non finalisée et sur un brouillon, c'est totalement injuste
Il y a
et
aussi
même
le
idiot.
fait pour te montrer un exemple, toi qui es aussi fan des Evil Dead, si t'aurais vu les making-of, comment ils ont fait les masques et les effets spéciaux avant, t'as pas la même surprise de faire. Ouais, en fait, finalement, ils ont fait comme ça. Ah ouais, c'est malin. Tu sais, mettre la caméra sur un tronc
Bah après,
d'arbre, des trucs comme ça. Tu sais,
oui, après, bien sûr, je comprends.
Tu vois ce
Pour
que je
moi,
veux.
personnellement, ça me dérange pas parce que oui, je vois ce que tu veux dire, effectivement. Mais voilà, en fait, ce que ça gâche, c'est la surprise. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas voir justement les making-of parce qu'ils n'aiment pas savoir comment un film est fabriqué parce que pour eux, ça
C'est
gâche la
bien
magie.
dommage.
Moi, j'ai pas du tout ce regard-là parce que Non mais c'est le cas. Mais moi j'ai pas du tout ce regard-là parce que déjà j'ai envie de travailler là-dedans. Je travaille en quelque sorte là-dedans, mais bon, pas professionnellement. Mais je veux dire, moi j'ai pas le regard, disons, magique que quelqu'un pourrait avoir en regardant un film. Moi les effets spéciaux, souvent je les vois involontairement. C'est souvent le cas de l'image de synthèse. L'image de synthèse, quand il y a un truc en image de synthèse qui est rajouté sur une l'image, je le vois. Mais ça me choque pas, dans le sens où je me dis, ah, c'est une image de synthèse, non, c'est moche. Non, non, moi je vois presque pour l'étudier le film, en fait. Et ça m'empêche pas de me plonger dans le film. C'est pas les effets spéciaux qui m'ont empêché. Dans le cas des Vidal, il y a un truc assez intéressant. Mais il y a plein d'exemples comme ça. C'est que, par exemple, bon, c'est un film d'horreur. Hein, okay. Donc si vous êtes jeune, bon, il peut encore choquer. Bon, c'est sûr que maintenant il fait un peu dépasser. Je parle pas du remake, hein, je parle de l'original. Mais bon, je conseille pas non plus un gamin de 12 ans. Sauf s'il est habitué aux trucs ultra violents.
Qu'est-ce qu'il
y a
donc ?
Et ainsi de suite. C'est que. Evil Dead est un film qui a été tourné en 16 mm et ensuite projeté en 35 mm. Mais il faut savoir qu'avant qu'il s'appelle Evil Dead, le film s'appelait Book of the Dead. Il a été renommé après son avant-première, en fait. Il a été diffusé une seule fois avec ce nom-là. Et donc, un montage très très légèrement différent. Parce qu'après l'avant-première, il a été modifié. Mais on pensait jamais revoir ce montage, parce que c'est quelque chose qui a été modifié, et c'est pour une avant-première, c'est de la pellicule, et puis c'est pas conservé, je veux dire, c'est comme il a été modifié, c'est pas celui qui sera diffusé dans tous les cinémas, enfin qui sera utilisé. Il y a un nouveau master qui sera fait d'une certaine manière. Sauf que, c'est en Grèce, une VHS est commercialisée de Evil Dead. Sauf que c'est ce fameux montage qui est commercialisé, pourquoi ? Parce que la copie, enfin une copie, du premier montage avait été piqué et commercialisé frauduleusement sans droit, sans autorisation en Grèce. Et résultat, certes, sur le plan légal, c'est totalement illégal. Certains pourront dire ouais, mais c'est pas le film tel qu'il a été vu, enfin tel que tout le monde l'a vu. Cela dit, c'est une vision du réalisateur et surtout, ça donne autre chose. Et le film s'appelle Book of the Dead dans le générique. Il y a tout un tas d'histoires comme ça. Où c'est arrivé. Souvent c'est du vol, hein. Comme pour l'épisode là, c'est totalement du vol. Celui qui l'a piqué sur le serveur, qui l'a mis ensuite en torrent, c'est du vol. Effectivement, c'est du vol. Mais c'est pas du vol dans le but de faire une utilisation commerciale. Attention, je ne dis pas qu'il faut le faire, parce que ça reste du vol de matériel, c'est répréhensible dans certains cas. Donc non, il faut pas déconner avec ça. Et puis ça se fait pas, c'est vrai. C'est répréhensible. Mais cela dit, ça nous permet parfois, dans certains cas, c'est intéressant. Le cas de Legend de Ridley Scott, par exemple, ça nous a permis d'avoir une version plus proche de ce que le réalisateur voulait, même si c'est pas vraiment ce que le réalisateur voulait. Mais c'est quand même plus proche. Ça nous donne de nouvelles scènes, ça nous donne un montage plus proche de ce que Ridley Scott voulait montrer à l'écran, avant que les studios ne charcutent le film.
Pour revenir à l'épisode Doctor Who, est-ce que c'est ce que les gens attendent ? Est-ce que le fait de l'avoir vu, ça va t'empêcher de le revoir en version terminée où tu dis ah c'est où, ouais.
Moi non. Moi je vais le 23 août, je vais regarder l'épisode parce que j'ai envie de le voir sans les copyrights BBC déjà. Parce qu'il y a des, je veux dire, dans cette version-là, il y a du texte partout. L'image est gâchée par du texte. L'image est d'ailleurs légèrement recadrée pour l'occasion, dans ce qui fait que je suis même pas sûr qu'on ait l'image dans son entièreté. Donc clairement, je vais pas dire que j'ai passé un bon moment à regarder cet épisode-là. Dans cette version-là, moi j'ai envie de le regarder en couleur.
Non mais c'est vraiment, des fois c'est à peu près les gens, tu sais, pour revenir à Thomas qui l'avait regardé chez moi, lui ça va pas l'empêcher, il a envie de le voir quand ça va passer à la télé. C'est vrai qu'il y a les gens, en général ils ont peur, les gens et BBC, que les gens, quand ils l'ont vu, ils vont dire ah non c'est bon, j'ai vu ce que je voulais voir, mais pas regarder ça à la télé. Donc ils ont peur un peu de perdre du public. Mais moi, je pense pas que ça n'empêche que les gens qui ont téléchargé ça, déjà deux, ce sont des grands fans, des gros fans. Et c'est des gens qui vont être là à répondre à l'appel quand ça sera diffusé le 23 août. Voilà.
Bah, c'est un peu comme si on ne regardait pas le doublage français quand ça passe sur France 4 parce qu'on l'a déjà vu en VO. C'est la même chose.
Ouais. Oui.
Moi, je sais que à chaque fois que ça passe à la télé, je regarde tout le temps.
Moi aussi.
Mais voilà, je connais déjà les épisodes, c'est pas pour ça que je vais me dire, je vais pas regarder.
Seulement quand je manque, c'est vrai que France 4 les diffuse en général le samedi soir, et samedi soir, je sors. Voilà, c'est ça que je manque.
Oui, voilà.
Mais ça, c'est pas grave, ils se rattrapent, ils font plein de rediffusions. J'ai Blink, je sais pas combien de
Non,
fois.
je voulais un peu terminer sur les et parler en plus des workprints parce que j'en ai déjà parlé dans l'article, mais je voulais en parler en plus en détail dans ce Gaïcast. Et puis peut-être qu'il y en a qui trouveraient ça intéressant. Et puis j'aime bien parler d'autres choses que de Doctor Who parfois, même en utilisant Doctor Who comme prétexte. Il y a des histoires assez intéressantes pour workprints. Je vais prendre le cas d'Evil Dead 2, t'es peut-être pas au courant, mais pourtant je sais que t'aimes bien
Si,
les films comme moi.
sûrement, rafraîchis-moi la mémoire.
C'est quelque chose. On connaissait l'existence, mais on ne l'avait pas vu. Parce que ce qui arrive parfois, surtout aux États-Unis, c'est que les studios, une fois que le film est terminé et ainsi de suite, ils demandent au réalisateur en fait, de produire une version pour la télé. Donc qui est généralement censurée dans ses dialogues. Donc au lieu d'avoir des fuck, c'est remplacé par des mots beaucoup plus. Poli, quoi, d'une certaine manière, et aussi moins violent, parce que ça passe parfois sur des chaînes qui ne permettent pas d'avoir des programmes violents. Et oui, de toute façon, je vais terminer là-dessus, t'en fais pas, Michel. Et donc, Sam Raimi, enfin, le studio avait demandé à Sam Raimi de produire une version presque tout public d'Evil Dead 2, et avec beaucoup de violence. Et ça peut paraître bizarre de produire une version tout public d'un film d'horreur parce
Ah
qu'on se dit
oui,
mais quel est
d'où le
l'intérêt
fait
dans
qu'ils
ce
ont
cas-là?
changé la couleur du sang. Tu sais, le sang c'est rouge et
Oui,
là ils
enfin
ont
non,
mis,
la couleur du sang
là ils
c'était.
ont mis du sang
Oui.
pour
Ça
contrer
c'était
la
en...
censure. Ils ont mis du sang,
Ça c'était
ils ont mis du
avant
sang
comme.
vert. Ils ont fait le sang vert bleu pour
Oui,
justement
voilà.
contrer la censure pour que ça, que le film soit pas interdit aux moins de 16 ans et comme ça.
Mais ça c'était avant justement, ça c'était pendant le montage. Non, c'est après le montage en fait du film. En fait, la Fox a demandé une version télé et Sam Raimi a tenté de produire une version télé. Mais en fait, ce montage-là n'a jamais été réellement terminé et a été abandonné avant finalement qu'il soit diffusé, parce qu'il a jamais été diffusé d'ailleurs. Enfin, c'est ce qu'on croyait. C'était quelque chose qui était mentionné dans les bouquins Making of et dans quelques interviews. Mais c'est quelque chose qui a finalement fini par terre, qui n'a jamais été finalisé. Et pourtant, il y a quelques années, ça fait 2 ans maintenant, eh ben, ce montage-là est apparu sur YouTube. Et en fait, on a appris que c'est parce que ce montage-là avait été piqué dans le studio et diffusé sur des chaînes mexicaines. Oui. Et résultat, il y a quelques années, on a enfin pu voir ce fameux montage, non terminé, mais alors qui permet de voir des scènes coupées qu'on n'avait jamais vues jusqu'à présent. Dommage que le doublage soit en espagnol, je crois. Enfin, ou non, mais enfin mexicain, enfin bref, la langue du pays. Désolé, il est tard. Et voilà, on a, disons, une version du film qu'on aurait cru jamais voir et qui a fini finalement dans la poubelle. Enfin, qu'aurait dû finir dans la poubelle. Ce type de montage différent, faut savoir que ça existe toujours puisque la BBC en produit elle-même. Et oui, elle produit à la fois un montage pour sa chaîne, mais aussi un montage international. Pour les dernières saisons, ça se voit plus. Mais ce que beaucoup de personnes, par exemple, reprochent au final de la saison 3, vous savez, enfin, tu sais, le passage musical qui a été coupé des Scissor
Oui.
Sisters, avec le maître qui balade le
Ah
docteur
oui,
dans un fauteuil
je vois.
roulant. Il y a des scènes comme ça qui ont été coupées dans la version internationale, non pas par France 4, mais tout simplement parce que la BBC, quand ils vendent à l'international, ils formatent les épisodes sur un certain, sur une certaine durée pour pouvoir le commercialiser
Ouais,
facilement.
c'est...
Parce que un épisode d'une heure, c'est moins facile à vendre qu'un épisode de 45 minutes. Oui, tu voulais
Non,
dire?
non, je suis d'accord avec toi.
Voilà. Donc, c'est sur ces bons mots, ces mots tonitruants qu'on va finir ce Gallicast et qu'on va se dire à la prochaine fois. Et le Gallicast sera sur The Power of Crawl, normalement, et Thomas aura
Oui.
repris sa place.
Oui, va
Allez,
boum,
va
va
voum!
boum. Ciao.